can't think what I hope to gain. When the rivers turn to blood and the joy turns into pain. With a rocket pride in Germanic roots, swastikas shaved heads, steel toe cap boots. Their warped ideal is a Nazi nation born of loss and bleak frustration. A white nightmare. A white nightmare. A white nightmare. The great white night. When they misplace pride in their areas far from the rotten seeds inside their heads, hatred grows and hatred spreads. Before you realised it had begun, the world is under threat from Nazi scum. So on your feet now, do what's right. It's time to spread the love, they block out all the lies. We need one heart, one soul, one nation to save us all from annihilation. We suffered from too many wars. We must never break under their laws. We're gonna hurt enough, we'll take no more. We must defeat the fascist cause. A white nightmare.
Les policiers ont reçu de nouvelles consignes.
Il est maintenant temps en France de sévir.
Des Français interrogés se déclarent favorables au principe de tolérance zéro.
Le peuple marchera au pas de loi. fonctionnaires seront affectés au transport en commun, pour qu'on puisse prendre le transport en commun sans avoir peur, et à ce qu'on appelle les brigades anticriminalité, pour qu'on aille chercher les délinquants là où ils se trouvent, et qu'on leur mène la guerre, aux délinquants et aux voyous.
Ce cinquième numéro d'appel d'urgence est maintenant terminé. Attention à vos poches et à vos sacs dans le métro. Merci, bonsoir.
Discours sécuritaire extrémiste. tout s'intègre en harmonie, comme dans vos rêves.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89.4 FM, la radio libre de la Fédération anarchiste. Vous nous écoutez sur la FM à Paris et dans toute l'Île-de-France. Et pour nous écouter, j'accroche les mots en ce début. ne nous écourtez pas, mais vous pouvez nous écouter donc à Paris et dans toute l'Île-de-France sur le 89.4, aussi en DAB+, pour les personnes qui ont cette nouvelle technologie et les nouveaux appareils d'écoute de la radio. Toutes les autres personnes, ce sera sur le site de la radio www.radio-libertaire.org pour nous écouter en streaming via le lien en direct, où que vous soyez dans le monde, pourvu que vous ayez Internet. Puis il y a toutes les autres plateformes relais aussi du lien streaming, hein, je pense. Il y a d'autres sites, radio.fr, anarchiste.info, il y a des dizaines et des dizaines de sites sur Internet qui répercutent le signal streaming. Donc voilà, sur le site de la radio, évidemment, vous pouvez retrouver les podcasts de vos émissions préférées et aussi de C'est là que ça se passe, bien entendu. Et puis d'autres informations aussi. N'hésitez pas à aller le consulter. Il est 13h passé de quelques minutes. C'est là que ça se passe, qui revient après une petite pause, empêchement que nous avons tous eu en ce qui concerne lundi dernier. Mais on revient donc pour à peu près 1h20 d'émission en ce début de semaine, de ce lundi. Semaine qui s'annonce un peu chaude en température. Un peu moins en termes de rendez-vous du mouvement social, mais on aura quand même quelques dates d'agenda à vous transmettre dans le studio. Aujourd'hui, il y a Gérard.
Salut !
Et il y a aussi Ramon.
Bonne journée !
Je vais vous laisser débuter l'émission.
Bon, on va peut-être commencer, Ramon, par une ou deux petites brèves.
Ouais, on peut déjà annoncer... Dans la catégorie avis à la population, la parution du Monde Libertaire d'été, qui est donc sorti. Vous pouvez vous le procurer à la librairie Publico, 145 rue Amelot, et c'est le numéro spécial été. Et donc, à numéro spécial, pagination spéciale, vous en avez pour 92 pages pour 6 €, avec toutes les rubriques habituelles, terrain de lutte, antimilitarisme, international, réflexion, écologie, culture, fiche de lecture, etc. etc. De quoi donc amener ce journal, ce mensuel de la Fédération anarchiste en vacances sur les plages, et de quoi ça vous permettra de vous instructionner en vous faisant bronzer.
Tout à fait, le Monde Libertaire de cet été qui est arrivé déjà à la librairie. Il n'est pas encore sur le site internet de vente de la librairie, mais il sera cette semaine pour les personnes qui souhaiteraient le commander par correspondance. Mais en tout cas, si vous passez au 145 rue Amelot, il y est depuis ce week-end, donc à 6 euros avec cette pagination spéciale de 96 pages pour durer jusqu'au numéro
de septembre. Eh oui.
La thématique du numéro de septembre, l'Espagne.
Voilà, je crois que c'est pour les 90 ans de la Révolution espagnole. Et donc il y aura, je crois savoir, je suis sûr même, qu'il y a déjà certains articles en préparation et même déjà rédigés.
Mmh. Tout à fait. Ça sera pour le numéro de septembre, mais j'ai déjà vu quelques articles sur l'Espagne aussi dans le numéro d'été, quelques petits articles qui sont parus, parce que rappelons-le quand même, c'est en juillet 36 que la réponse au coup d'État des forces de Franco a eu lieu, c'est quoi, le 17, 18, 19, j'oublie toujours la date.
Alors le coup d'État, le putsch, ça a été le 18, mais la riposte ouvrière, c'était le 19 au matin.
Le 19 au matin. Le grand matin.
Très tôt.
N'est-ce pas,
très
Gérard
On espagnol. Parle d'autre chose.
Non.
Le matin du grand soir.
Ça pour être un matin du grand soir.
Ouais,
ça a
grand
été
matin
un
du
matin
soir. Du
grand
soir.
Alors, c'est bien, remarque, à l'époque, les ouvriers, ceux qui luttaient, les révolutionnaires, se levaient le matin.
Ouais.
Parce que maintenant, ça devient difficile.
C'est ça. Mais à mon avis, ils n'ont pas dû dormir la nuit qui précédait. Hein. À mon avis, je pense que la tension devait être palpable.
Ça fait plusieurs nuits où ils dormaient peu et pas chez eux.
Pas chez eux et avec beaucoup de réunions et de discussions, de débats, de décisions, quoi faire, comment le faire, etc. Ça a dû être intense, je pense. Mais oui, donc 18 et 19 juillet pour cette page de l'histoire qui nous concerne particulièrement en tant que qu'anarchiste et révolutionnaire aussi dans une vision plus globale, de réponse à l'extrême droite et au fascisme aussi. Et sans doute qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, peut-être la semaine prochaine, sans doute en septembre aussi, pour présenter ce numéro du Monde Libertaire, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus d'ici le 19 juillet de cette année.
Oui, puis je pense que c'est important de revenir dessus dans la mesure où il y a quand même pas mal d'organisations qui ont été, ou de sensibilités qui ont été relativement peu présentes dans la Révolution espagnole et qui essayent aujourd'hui de s'accaparer la mémoire. Et je crois que c'est important pour nous anarchistes de refaire un peu le point sur ce qui s'est réellement passé à ce moment-là en Espagne. À un moment où on voit des gens qui ont participé au sabordement de la Révolution espagnole pour des intérêts géopolitiques plus vastes, vouloir absolument s'en faire les porte-parole.
Tout à fait, je pense que ça me donne même l'idée de revenir dessus au mois de novembre de cette année pour un des premiers sabordages de la Révolution espagnole et en mai de l'année prochaine pour le second sabordage de la Révolution espagnole. Je pense que c'est les deux points malheureux de notre histoire en tant qu'anarchiste en 36 en Espagne. Mais il y aura, comme tu le dis Gérard, il y a un certain nombre de choses à rappeler de cette expérience, autant positif que négatif.
Ouais, je pense surtout à un moment donné où les gens ont un peu tendance à oublier ce qui s'est passé, à modifier ce qui s'est passé et à se justifier de la vision fausse qu'ils en ont pour à se référer à cette vision fausse pour justifier leurs actions aujourd'hui. Je crois que c'est intéressant, enfin, on y reviendra, mais ça vaut le coup.
Tout à fait. On va commencer alors l'agenda. Déjà avec deux premiers rendez-vous aujourd'hui, un doublon, mais vous êtes habitués dans C'est là que ça se passe, au doublon, au triplon. Il n'y aura pas beaucoup de rendez-vous cette semaine, mais en tout cas, il y a un doublon pour aujourd'hui. Ramon, je te laisse présenter le premier rendez-vous.
Le premier, ça se tiendra de 17h à 21h. C'est la CGT du SAMU Social de Paris qui organise une soirée de soutien aux salariés du SAMU social, justement, qui sont en grève. On ne le sait peut-être, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais ils sont en grève depuis le 23 juin. En grève contre les coupes budgétaires et les remises à la rue de publics vulnérables. Cette grève perturbe évidemment le fonctionnement du 115, ce qui est dénoncé par Utopia 56, qui élargit sa dénonciation aux conséquences de la politique budgétaire de l'État. Et alors, où doit avoir lieu cette soirée de soutien? Eh bien, au 15 rue Jean-Baptiste Berlière, dans le 13e arrondissement de Paris. Vous pouvez aller les soutenir moralement, financièrement, en leur apportant des tartes, des gâteaux, des boissons sans alcool qui seront vendues à prix libre. Et les bénéfices seront entièrement reversés à la caisse de grève. Je vous rappelle l'adresse 15 rue Jean-Baptiste Berlier, 75 013 Paris. C'est au métro Bibliothèque François Mitterrand, sur la ligne 14, ou bien le RERC, ou encore le tramway T3 arrêt Avenue de France. Et c'est donc ce soir de 17h à 21h.
Et comme je le disais, un second rendez-vous pour aujourd'hui, c'est un rassemblement pour le retrait de la loi logement Jean Brun Le Cornu. Alors les 7 et 8 juillet prochains, la loi logement Jean Brun Le Cornu passera au Sénat. Après une canicule historique, cette loi prévoit notamment de repousser de 5 ans l'obligation pour les bailleurs de passoires thermiques de réaliser les travaux de rénovation thermique et énergétique imposés en théorie par la loi Climat-Résilience de 2021. La plateforme Logement pour tous et toutes, avec l'Alliance écologique et sociale et les Amis de la Terre, appelle donc un rassemblement devant le Sénat ce lundi 6 juillet à 17h pour dénoncer cette loi qui revient sur celle de 2021 et qui octroie le droit à des propriétaires de continuer à pas faire des travaux de rénovation vis-à-vis des locataires qui vivent dans des logements étouffants en plein été ou réfrigérants en plein hiver quand on n'en a pas besoin. Et c'est à partir de 17h, rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement.
C'est métro Luxembourg.
Alors, pourquoi c'est rue de Vaugirard?
Parce que c'est rue de Vaugirard, c'est sur l'entrée qui a sur la
de
petite
l'autre
place.
Côté. Oui,
c'est
oui,
sur la
voilà,
petite place
voilà.
qu'il y a derrière, où il y a l'entrée du Sénat.
C'est la place de derrière, en effet, les jardins du Luxembourg. Donc voilà, n'hésitez pas pour ce rassemblement qui a lieu aujourd'hui à 17h contre le projet de loi Jean Brun, Le Cornu.
Il faut quand même souligner le sens du timing de ce gouvernement et des propriétaires qui, malgré ce qui vient de se passer, ce qui va continuer à se passer durant tout l'été, maintient quand même l'examen de ce projet de loi, comme quoi leurs profits valent bien aux morts.
Les voix du Sénat sont impénétrables, mon cher compagnon. Comme tu le sais, Gérard Larcher a son propre agenda politique.
Hein. Ouais, mais c'est...
Parfois en accointance, parfois pas avec le gouvernement, mais tant qu'ils ont leur clim dans la salle du Sénat, nos vieux papis du Sénat.
Car ils ont la clim.
Non, mais c'est quand même extraordinaire parce que tu vois, ils passent cette loi-là. La semaine dernière, ils ont passé la loi dans le cadre du projet de loi agricole. Ils ont passé la loi qui autorisait l'utilisation d'un certain nombre
de pesticides dont on sait les effets négatifs. Oui.
Les mecs sont vraiment en phase avec la réalité, avec le vécu des personnes.
Vive le déphasage. on va faire les rendez-vous de demain, du 7 juillet. C'est un rassemblement. Une nouvelle fois pour le logement.
Oui, on reste dans la problématique du logement. Et c'est un appel du DAL, droit au logement, un rassemblement devant le 172 rue Saint-Maur dans le 11e arrondissement de Paris. Rassemblement afin de protester contre les propriétaires qui louent des appartements indignes et dangereux pour ses occupants. Le DAL demande un arrêté d'insalubrité, un relogement digne et immédiat pour les locataires et la transformation de cet immeuble en logements sociaux. Donc si vous êtes disponible et que vous pouvez aller les soutenir, vous êtes les bienvenus demain, mardi, à 18h, devant le 172 rue Saint-Maur, métro rue Saint-Maur, il n'y a pas à se tromper, ligne 3.
Et oui, quelques détails supplémentaires dans du coup ces bâtiments qui sont situés au 172 et 174 rue Saint-Maur précisément, où les propriétaires louent des appartes qui ont quand même un certain nombre de problèmes, et parmi ces problèmes, des murs porteurs et des planchers qui se fissurent, des plafonds qui s'effritent. Des fenêtres qui sont brisées et pas réparées par les propriétaires, la présence de moisissures, la prolifération de insectes et animaux que l'on qualifie de nuisibles, des installations électriques qui ne sont pas aux normes, d'autres choses encore, mais je vais m'arrêter là, c'est déjà une liste assez dense en soi. Donc voilà, ce sont des appartements qu'on pourrait qualifier, en effet, en tout cas selon nous, d'insalubres. Et voilà, et donc un certain nombre de travaux qui ne sont pas faits, alors que les habitants et les habitantes payent les loyers tous les mois.
Et que le proprio, à l'heure actuelle, est en train de menacer d'expulsion les trois derniers locataires.
Ben oui.
Et l'intérêt de l'arrêté d'insalubrité permettrait effectivement au locataire d'entamer une procédure de relogement. Et ça serait intéressant que M. Brossat, qui naturellement doit nous écouter, s'occupe un peu de ça, en tant qu'ancien, en tant qu'élu parisien, et ou M. Baudrier,
qui est l'adjoint au logement, c'est ça ?
Qui est l'adjoint au logement, s'occupe un peu de ça, parce que c'est bien, à un moment donné, de décider de faire des logements sociaux pour les tranches les plus élevées de la population, les plus aisés de la population, mais ça serait bien aussi qu'ils s'occupent un peu des personnes qui sont prises dans la mouise, parce que ces gens-là, non seulement ils vivent dans la merde, et dans des conditions qui sont indignes, mais en plus ils ont subi la canicule, et voilà, bon, donc ça serait important qu'il y ait un maximum de personnes à l'action du DAL demain.
C'est ça, dont on rappelle la date déjà donnée par Ramon, donc à savoir demain, le 7 juillet, ce sera à 18h devant le 172 rue Saint-Maur, c'est dans le 11e arrondissement de Paris, et si vous voulez venir en métro, vous avez le choix avec la station Goncourt sur la ligne 11, ou encore Belleville sur les lignes 11 et 2 du métro, et puis y a aussi des bus qui passent par là, mais je vous laisserai la joie du plan des bus parisiens. Et voilà pour ce rendez-vous du mardi 7 juillet. Il n'y en avait qu'un seul, Ramon, pour ce mardi.
J'en avais qu'un seul.
Ah, c'est bien. Pas de
doublon.
Non, un unique long. Alors, avant de reprendre l'agenda, on va faire quelques petites brèves. Et j'en ai une qui m'a fait gentiment rigoler, si ce n'est la gravité de la chose.
Oui,
mais c'est la CGT en grève contre la CGT. Ben oui, c'est toujours bien de pointer les incohérences parfois de nos centrales syndicales qui s'installent dans certaines dérives de pouvoir. Et bien là, dans ce cas-là, ce sont des salariés qui protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail. Généralement, c'est souvent un des buts premiers protester dans le cadre du travail. Mais c'est vrai que ça l'est souvent moins quand le patron, c'est la CGT. Et c'est la CGT cadre en particulier, à savoir l'UGICT. Le 24 juin dernier, 14 de ces 18 salariés ont débrayé pour interpeller leurs camarades dirigeants. Leurs camarades dirigeants, donc. Et le tract diffusé Ce jour-là, au siège à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, qui est le siège national de la CGT, à tout du cahier de doléances. En cause, je cite, un virage autoritaire dans la gestion des RH, dans les relations humaines, depuis 6 mois. Résultat, plus de la moitié des salariés est passée par la case arrêt maladie. Mention spéciale quand même à la chargée de mission RH, convoquée à un entretien préalable le 23 décembre dernier pendant son arrêt de travail quand même, et qui a été licenciée le 2 janvier 2026, au premier jour de son retour. Bonne année, hein, et surtout la santé bien sûr. Autre sujet de crispation, le nouveau règlement intérieur qui interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, d'aller aider un collègue dans son travail sans avoir saisi le responsable N+1. Vive la novlangue, hein. On est loin de l'auto-organisation des masses, hein, chez cette partie de la CGT qui a l'air d'être très enclin à discipliner les masses. On est pas loin du goulag chez les cadres, là. Ouh là là. La direction de l'UGICT a également décidé de mettre en place, attention, une pointeuse. Un système totalement inédit au sein du paquebot confédéral. L'objet est soupçonné de servir d'outil de contrôle et de coercition des salariés. Et la moitié des troupes a décidé de la boycotter. Je cite, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le respect des obligations légales applicables aux employeurs. Fin de citation, se défend auprès du canard enchaîné la secrétaire générale de l'UGICT. Je ne suis pas sûr qu'elle ait bien lu les statuts de la CGT nationale, cette patronne de l'UGICT. Mais ça tombe bien, parce que son adjointe est issu de l'inspection du travail, figurez-vous, et vient d'être promu au bureau confédéral par la patronne de la CGT, Sophie Binet. Sophie Binet, rappelons-le, qui est elle-même ancienne chef de l'UGICT. Ancienne chef de la CGT des cadres, et oui, et oui.
Il y a beaucoup de chefs, hein.
Ah, il y a beaucoup de chefs, là, dans cette partie-là de la CGT. L'usage de la pointeuse, quand même, en revanche, ne s'applique pas à la camarade trésorière, bizarrement, qui gère la maison et cristallise l'essentiel des critiques. Elle a été mise à la disposition de la CGT en 2005 par son employeur, le laboratoire pharmaceutique japonais Astellas. Très zen, celui-ci a décidé non seulement de la prêter à l'UGICT, mais aussi de prendre en charge une partie de son salaire. Il est bon joueur quand même, ce laboratoire. Depuis 21 ans, le labo ne facture que 80% de la paie de l'ex-visiteuse médicale, un peu plus de 10 000 euros bruts mensuels, et rack les 20% resto. Arigato, patron! C'est d'autant plus sympa que la CGT, aujourd'hui, n'est plus représentée au sein de cette entreprise. C'est quand même bizarre. Contrairement à la CFDT, à l'UNSA et à FO. Bon, bah les Japonais savent y faire avec les syndicats et l'UGICT avec les travailleurs, manifestement. Un commentaire ?
Ouais. Ça ne fait qu'une brique de plus, parce que je crois que l'ensemble des organisations syndicales sont quand même habituées à être de très très mauvais gestionnaires du personnel quand ils en ont, que ce soit
tout à fait.
En tant qu'organisation syndicale dans leur structure ou en tant que gestionnaire de comité d'entreprise. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes.
Avec les comités d'entreprise, c'est loin d'être la première fois.
Voilà, je crois même qu'à certains moments, ça a été jusqu'à des menaces physiques ou des voies de fait sur un certain nombre de personnes qui osaient lutter pour leur dignité dans les boîtes. Donc voilà, bon, moi ça m'étonne pas trop.
Non, mais tu parlais des comités d'entreprise, ça me rappelle un des comités d'entreprise de la SNCF. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années en arrière. La SNCF, il y a beaucoup de comités d'entreprise, puisque chaque pôle de la SNCF a son comité d'entreprise. Et donc là, c'était le comité d'entreprise du pôle Paris Gare de Lyon Sud-Est. Donc c'est le pôle consacré à toutes les voies qui partent de Paris Gare de Lyon au niveau des transports Île-de-France. Et donc c'était Sudrail qui avait obtenu les élections, qui était arrivé en tête à des élections localement du coup, hein, à Paris Sud-Est. Et qui récupérait du coup la gestion du comité d'entreprise à la place de la CGT. Mais figurez-vous que, en tout cas localement, Sudrail a fait la même chose que les autres, à savoir avoir un management hyper rigide, hyper autoritaire avec les personnes qui travaillaient au comité d'entreprise, avec du harcèlement, avec des licenciements, etc. etc. Donc oui, c'est pour corroborer ce que tu viens de dire, Gérard, et donner un exemple supplémentaire. Mais,
moi, il me revient en mémoire.
Malheureusement, il y a des choses.
Moi, il me revient en mémoire un autre événement, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a quelques années, quand des migrants avaient été occupés la bourse du
travail. Oui,
locaux de la bourse du travail, des bureaux d'organisation syndicale à la bourse du travail. Il semble me souvenir que c'était le service d'ordre qui était venu les virer.
Exactement.
Manu militari,
même pas
besoin d'intervention de la police dans ces cas-là.
Non, ils avaient fait le travail eux-mêmes.
Voilà, donc. Ce qui ne les empêche pas d'ailleurs aujourd'hui de signer absolument toutes les pétitions pour demander la dignité des migrants. Hein. Ils ne se sentent pas spécialement gênés.
Non, bah sans vergogne, hein, comme souvent. voilà pour cette petite brève. Ramon,
je
sais que tu en as une autre.
Oui, j'en ai.
Au moins.
J'en ai deux autres, mais qui s'enchaînent. À propos de la police, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos gouvernements, quels qu'ils soient, ont tendance à bichonner leur force de police, leurs représentants. Et alors, si l'information vous a échappé, mais je sais que rien ne vous échappe, cette année, sur demande du préfet de police de Paris, on devrait voir, au défilé du 14 juillet, défiler les braves M, hein, la brigade de répression anti-violence motorisée, qui n'est ni plus ni moins que le successeur des célèbres voltigeurs chers à feu Charles Pasqua. Donc, cette brigade de répression d'actions violentes motorisées a fait l'objet de nombreuses critiques au sujet des violences que elle a exercées au cours de ses interventions. Pour une brigade chargée de réprimer l'action violente, ça l'affiche évidemment un peu mal. Sans oublier que plusieurs de ces membres des Braves sont sujets à des poursuites judiciaires et à des condamnations à des peines de prison. Avec sursis, hein, faut pas être trop dur avec ceux qui sont chargés de notre sécurité et de nous protéger. Dans ce corps de police, c'est pas comme à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de dissolution en vue. Donc on est non seulement... Cette brigade continuera d'exister, mais on va la voir parader le 14 juillet.
Oui, et bien malheureusement.
Dans la foulée, il y a d'autres informations. Il va y avoir, on se dirige vers une présomption de légitime défense des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire que, au vu des derniers procès qui ont été intentés à des membres des forces de l'ordre pour des interventions plus ou moins intempestives, le gouvernement, le ministère de la police s'est dit qu'il fallait prévenir plutôt que guérir, et donc on va estimer que les forces de l'ordre, lorsqu'elles interviennent, elles sont supposées être en légitime défense. C'est un peu la porte ouverte à des excès. Je sens venir les dérapages nombreux et complètement incontrôlés pendant les interventions de la police. On verra bien ce que l'avenir dira, mais je vois venir les dérapages.
C'est-à-dire que là, tel que c'est dans le projet de loi, si j'ai bien compris, à l'heure actuelle, le policier qui tue quelqu'un passe devant et est considéré comme ayant commis un crime. Et là, il serait présumé innocent et ça serait à la défense, à la partie adverse, de démontrer effectivement qu'il est coupable. Ce qui est quand même une inversion totale par rapport au droit français, par rapport au droit en général. Et puis après, comme le disait, je crois que c'est Nunez qui expliquait, mais de toute façon, si jamais il y a une vidéo qui sort, à ce moment-là, on pourra effectivement revoir ce qui s'est passé. Alors il suffira en gros d'effacer les vidéos ou d'empêcher qu'elles sortent. Pour que la personne ne puisse pas être, pour que le policier ne puisse pas être poursuivi.
Et oui, c'est vraiment un blanc-seing donné aux forces de l'ordre pour juger eux de la situation et de leur d'estimer qu'ils sont eux en danger et donc avec le droit évidemment d'exercer une légitime défense.
A priori, quelqu'un meurt, il a bien fait son travail.
Voilà.
Je crois qu'on va passer un petit morceau de musique.
Exactement, on va passer un petit morceau de musique. Ce sera majoritairement du blues aujourd'hui. En pause musicale. Ramon vous dira pourquoi. Juste après cette petite musique.
I got up early this morning so I could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday, 'cause I got nothing left to lose. And it's a good day. The blue. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I work for laid me off. Lord, and I worked for him real hard. But I won't let my kids go hungry. And it's a good day. It's a real good day for the blues. I
so I could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. Gonna go to church on Sunday. Lord, I got nothing to lose, and it's a good day. It's a real good day.
On vient d'écouter donc sur Radio Libertaire Ruth Brown avec son titre Good Day for the Blues. Petit hommage à Thierry Poré. Ramon va vous en dire quelques mots concernant notre compagnon décédé la semaine dernière. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM, la radio libre de la Fédération anarchiste, et toujours à l'écoute de C'est là que ça se passe.
Eh bien, oui, effectivement, on a eu la tristesse d'apprendre le décès de Thierry Poré à l'âge de 78 ans. Thierry Poré, qui était un ancien militant de la Fédération anarchiste, et pas seulement, il a milité également à l'ASRAS, l'Alliance syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste, et également, évidemment, à la CGT du Livre. Et Thierry nous a joué un sale tour en nous quittant le 30 juin, c'est-à-dire il y a 3-4 jours. Certains d'entre nous l'avaient connu au tout début des années 70, au groupe Louise Michel, dont il était membre à l'époque. Il faut dire que cette période, c'est-à-dire l'immédiate après mai 68, avait attiré toute une génération de jeunes vers la Fédération anarchiste. Et Thierry fut l'un de ceux-là. Anarchiste, antimilitariste, objecteur de conscience, antifranquiste aussi, il était membre du comité Espagne Libre. Enfin, il avait une palette assez large dans la contestation. Il avait quitté un temps la Fédération anarchiste pour rejoindre l'Alliance syndicaliste. Et quand celle-ci s'est autodissoute, il est revenu à la Fédération anarchiste avec le groupe Pierre Bénard, puis ensuite le groupe Salvador Seguí. Et d'ailleurs, après son départ à la retraite, il a quitté Paris pour s'installer avec sa compagne Fabienne à Bordeaux. Mais il manifesta la volonté de demeurer toujours membre du groupe Salvador Seguí, même s'il était quelque peu en exil à Bordeaux. Correcteur de profession, il a occupé différents postes au sein du syndicat des correcteurs CGT. De la même façon, à l'AFA, il fut mandaté à diverses reprises au comité de rédaction du Monde Libertaire, journal dans lequel il a écrit de très nombreux articles, que ce soit sous son nom ou sous divers pseudonymes, comme Jean-Pierre Germain, Sitting Bull, Alexis Pierre, Loulou Barbezois et bien d'autres que j'oublie là. Et de plus, quand il vivait à Paris, il était toujours passionné de musique de blues. Il animait chaque mercredi sur Radio Libertaire l'émission Blues en Liberté.
Depuis 81.
Depuis 1981, dès le départ. Et quand il est parti s'installer à Bordeaux, il a continué sur la radio La Clé des Ondes. Il a proposé une autre émission autour de cette passion qui s'appelle Bordeaux Blues, ainsi qu'une revue de presse des Vieux Fourneaux avec accompagnée de sa compagne Fabienne. C'est-à-dire toute une vie dédiée au militantisme anarchiste, syndicale au blues. Il nous laisse quand même assez triste parce que j'avoue que personnellement, évidemment, je le connaissais depuis un peu plus d'un demi-siècle. Et évidemment, comme beaucoup d'autres, c'est un petit peu ma jeunesse qui fout le camp aussi. Mais on ne l'oubliera pas. En tout cas, on pense très fort à lui, ainsi qu'à Fabienne et à leurs enfants, Julien et Delphine.
Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on passera majoritairement du blues, donc en pause musicale de l'émission, puisque il a animé ici sur cette radio Blues en liberté depuis 1981 jusqu'à il y a encore 7-8 ans, quelque chose comme ça, avant de reprendre, comme l'a dit Ramon, une autre émission de blues aussi, sur la clé des ondes, la radio militante et associative de Bordeaux. J'ai découvert personnellement beaucoup de choses en écoutant cette émission depuis fort longtemps sur Radio Libertaire et c'est aussi une façon de faire un petit clin d'œil à Thierry aujourd'hui. Oui, je sais. Que dire de plus ? C'est toujours impactant quand on perd des compagnons, voilà, des compagnonnes. Surtout que ça fait quand même un peu. Ce deuxième trimestre de 2026, il n'est pas commode. Il n'est pas commode cette année quand même.
C'est une hécatombe hein, quand même.
C'est pas. Ouais.
Continuons à avancer en leur mémoire.
Exactement. Alors. Sans transition aucune, histoire de nous remettre aussi de nos émotions, on va rebasculer sur l'agenda militant avec mercredi 8 juillet, donc dans deux jours, un appel à soutenir Zaïd et Gino ce mercredi 8 juillet. On a déjà parlé de ces deux-là en ce qui concerne la mobilisation de ces antifascistes pour éviter les prisons, la peine de prison et l'extradition vers la Hongrie et l'Allemagne principalement. Alors cet appel à soutien, ce sera pour mercredi 8, le rassemblement à 12h, place Louis Lépine, face au palais de justice, l'ancien palais de justice, métro Cité. Et à l'occasion, pourquoi ce rassemblement ? À l'occasion d'audience décisive pour Gino et Zaïd. Alors, après des mois de procédure, pour refaire un petit topo, Zaïd et Gino comparaîtront de nouveau devant la Cour d'appel de Paris, qui doit décider donc ou non de les livrer à la Hongrie et à l'Allemagne. Pour Zaïd, cette audience est décisive. Il risque jusqu'à 24 ans de prison. En Hongrie, 24 ans de prison en Hongrie, pays qui était pas trop démocratique hein, ces derniers temps, et aux conditions de détention qui sont encore plus horribles qu'en France. Les mêmes conditions qui avaient poussé la même cour à refuser l'extradition de Gino l'année dernière. Nous exigeons donc qu'elle soit cohérente et qu'elle s'oppose aussi à celle de Zaïd. Pour Gino, l'audience tout aussi décisive où la Cour se prononcera sur la demande d'extradition émise par l'Allemagne. Une demande basée sur l'enquête policière hongroise et envoyée quelques semaines après le rejet de la même demande émise par la justice hongroise. Un acharnement donc contre Gino qui risquerait également de finir dans les geôles hongroises s'il devait être extradé en Allemagne. Il y a 2 ans, malgré l'illégalité de son extradition, Maja T. était, elle, livrée par Berlin à la Hongrie, où elle est toujours incarcérée dans des conditions indignes. Il est vital que Zaïd et Gino ne soient pas extradés et que la France garantisse leur liberté. Et voilà pourquoi ce rassemblement, pour ne pas relâcher la pression. Soyons nombreux et nombreux pour soutenir Zaïd et Gino lors de ce rassemblement prévu mercredi 8 juillet à 12h, face au palais de justice, place Louis Lépine, c'est sur l'île de la Cité, et c'est le métro Cité pour y aller, mais c'est aussi à côté des stations Châtelet ou Saint-Michel également.
Il vaudra mieux passer par Châtelet ou Saint-Michel parce que généralement, quand il y a des rassemblements, ils ferment le métro Cité.
Oui, ou en tout cas, il y a une grosse ligne de gens habillés en bleu foncé à la sortie du métro Cité. Tout à fait, tout à fait. Donc, Saint-Michel aussi, c'est pas loin si vous voulez participer à ce rassemblement pour soutenir nos compagnons antifascistes Gino et Zaïd qui risquent la tôle, qui risquent l'extradition. Et c'est important de se mobiliser aussi pour eux, et je rappelle que c'est donc mercredi 8 juillet à 12h devant le palais de justice, l'ancien palais de justice sur l'île de la Cité. On a des choses pour jeudi 9 ou pas du tout, Ramon ?
Si,
allez.
Allez, jeudi 9, on va faire un jeudi 9 de 18h50 à 21h30. Une autre station de radio. Comme quoi, on n'est pas sectaire. Hein. Je parle de FPP,
Fréquence Paris Pluriel,
qui organise une émission en public sur le mouvement social en Bolivie et sur la résistance au fascisme en Amérique latine. Ça va se passer à l'Éternel Solidaire. C'est 1 rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement de Paris. C'est tout près du métro Danube, sur la ligne 7B. Vous pourrez, si ça vous intéresse, évidemment, venir discuter avec des représentants de différents collectifs. Citoyennes pour la paix en Colombie, WIFALA France, défense de la Bolivie plurinationale, ACAF, Assemblée des citoyens argentins en France, Argentine en lutte, Révolution citoyenne d'Équateur et bien entendu des animateurs de la radio Fréquence Paris Pluriel. Donc si ça vous branche, si vous avez envie de vous documenter sur ce qui se passe en Amérique latine et si vous avez envie d'échanger, eh bien vous pouvez donc vous rendre jeudi 9 juillet de 18h50 à 21h30, 1 rue de la Solidarité.
Mais je vais compléter un peu brièvement par rapport à la Bolivie, parce qu'il y a eu un gros mouvement social au mois de mai. On en avait juste cité comme ça, sans rentrer dans le détail, il y a quelques semaines, sur C'est là que ça se passe. Mais il y a eu un mois de grève assez massive. Alors, pas générale, pas complètement le pays bloqué, mais une grande partie du pays bloqué quand même, en fait, où l'ensemble des centrales syndicales s'étaient mises d'accord et la grève a duré quand même un mois dans beaucoup, beaucoup de corps de métier en Bolivie, ce qui a amené d'ailleurs des déclarations des gouvernements et du président là-bas à dire que les mobilisations aller au-delà du légitime exercice de la protestation sociale et politique. C'est dire à quel point l'État veut ça, quel est l'exercice de la protestation sociale et quel degré il doit avoir, évidemment. Hein, c'est ça m'a fait rire comme phrase, mais il a accusé le mouvement d'avoir comme mot d'ordre, entre autres, la démission du président, et que c'était pas bien d'avoir ce mot d'ordre là.
C'est de l'acharnement.
Tout à fait. Que c'était pas bien de créer des conditions de déstabilisation institutionnelle et d'affaiblissement du gouvernement. On est presque dans, ça me rappelle les textes de atteinte au moral de l'armée, etc. En France et dans d'autres pays.
Oui.
Démoralisation, voilà, je cherchais le mot. Donc il y a eu quand même un mois de grève avec dans les corps de métiers de l'agriculture, dans les corps de métiers de l'industrie, dans les corps de métiers des mines aussi, et d'extraction minière et d'autres corps de métiers aussi, mais principalement ces endroits-là où les syndicats sont forts en Bolivie. Des manifestations très massives à La Paz. Il y a eu des barrages routiers sur les autoroutes. Donc quand même une grande, grande crise localement et une grande lutte, une grande mobilisation qui a été victorieuse puisque un protocole de fin de grève et de fin de mobilisation a été signé avec beaucoup d'avancées. Pas la totalité de ce qui était demandé par les travailleurs, travailleuses et les syndicats, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avancées avec une augmentation des salaires, avec tout un tas de choses, par exemple, qui ont été obtenues, même si Donald Trump a eu ce mot par rapport aux mobilisations sociales, lui il avait dit c'est un coup d'État cette mobilisation sociale, puisque le président de Bolivie est un grand copain de Trump, hein, c'est un grand allié aujourd'hui de Trump. Donc voilà, comme Trump habituellement, il va toujours de son petit mot pour qualifier plein de choses qui se passent internationalement dans le monde, et notamment dans son précaré, hein, jardin gardé qu'est l'Amérique centrale et du Sud, évidemment. Bref, en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de mobilisation et c'est intéressant, hein, du coup, d'avoir un peu plus d'informations que ça sur cette mobilisation qui a eu lieu, qui a duré quand même un mois ou cinq semaines à peu près en Bolivie comme mouvement social, en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans la rue, dans les manifestations. Et bah, ça a payé. Donc, comme quoi, ça peut fonctionner. Comme quoi ça peut fonctionner. Un autre rendez-vous sur le jeudi 9 juillet, ce sera au 19 rue Burnouf, au local Libertad, jeudi 9 juillet à partir de 18h, pour l'assemblée ouverte de la Caisse de solidarité des prisonniers, qui s'intitule Calimero, jeudi 9 juillet à 18h, donc 19 rue Burnouf. On rappelle, voilà le pourquoi de l'existence de cette caisse. Parce que la prison est un des rouages de ce système basé sur l'exploitation et la domination. Et c'est pourquoi Calimero envoie des mandats à celles et ceux accusés d'actes de révolte dont la caisse est solidaire. Et cette caisse de solidarité a besoin de continuité, évidemment. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de mécène. Aussi, cette caisse a convenu d'un rendez-vous mensuel, la plupart du temps, pour chaque mois, donc pour collecter des sous et alimenter cette caisse. Ces rencontres sont aussi, et évidemment, l'occasion d'échanger sur les pratiques face à la répression, d'assurer le suivi des différentes histoires que suit la caisse Calimero, et de discuter des situations qui se présentent. Elle est également un moment de discussion autour de possibles moyens d'esquive, de résistance et d'auto-organisation offensive contre la machine judiciaire et carcérale. Dans un souci de régularité et du mieux que c'est possible, ces rencarts ont été fixés le deuxième jeudi de chaque mois. Et si vous avez internet et que vous voulez être tenu des informations des prochains rendez-vous, des prochains concerts de soutien aussi qu'il y a quelques fois dans l'année, et pour être inscrit du coup à cette mailing list de Calimero, envoyez un mail à calimeroparis@riseup.net. Calimero, donc c'est Kalimero Paris, Paris, c'est tout attaché, donc calimeroparis@riseup.net, riseup.net, donc pour vous inscrire à la mailing list de cette caisse de soutien. Et donc je rappelle que le rendez-vous ce mois-ci est à la bibliothèque Libertad, 19 rue Burnouf à Paris, dans le 19e, à partir de 18h pour cette assemblée solidaire de la caisse de solidarité Calimero, jeudi 9 juillet à 18h. Pour aller au 19 rue Burnouf, si vous venez en métro, c'est entre les stations Belleville et Colonel Fabien, sur la ligne 2 du métro. Belleville est aussi desservie par la ligne 11. Voilà pour les rendez-vous de ce jeudi. Est-ce que tu as un point terrain des luttes, Ramon ?
Eh bien oui, nous avons un feuilleton.
Dans le 19e.
Dans le 19e.
comme Calimero cette semaine.
Bien que là, on s'était un petit peu délocalisé. Il s'agit de la lutte des salariés de Biocop, les fêtes. Leurs 3 semaines de grève en début d'année leur avaient permis d'obtenir des augmentations de salaire, ainsi que la promesse de changer la gérance du magasin. Pour les augmentations de salaire, oui, ça a été tenu. Pour le changement de gérance du magasin, ça n'a pas été tenu. Il y a un nouveau manager qui a exactement les mêmes méthodes toxiques de gouvernance que l'ancienne directrice. Ça avait provoqué déjà chez les salariés un débrayage sauvage il y a 3 semaines. Et dans la foulée, avec leur comité de soutien, ils ont envisagé un rassemblement le 25 juin devant le siège central de Biocoop. Rassemblement qui s'est tenu malgré une canicule qui n'incitait guère à sortir, mais rassemblement qui a quand même réuni de 40 à 50 personnes pendant 2 heures. Quelques minutes de slogans ont suffi à faire venir le directeur régional pour leur proposer, premièrement, de recevoir immédiatement 3 personnes délégué par le collectif des salariés, mais sans représentants syndicaux, au motif que ceux-ci ne font pas partie de l'effectif du magasin de la place des fêtes. Ce qui est vrai. Deuxièmement, alors là, c'était, faut pas sourire, il s'engageait à écrire au collectif des salariés pour proposer les modalités d'un rendez-vous qui sera réservé aux seuls représentants syndicaux. Donc, on divise pour mieux régner. Mais finalement, les salariés, vu qu'on était sur place, ils ont donc accepté de désigner 3 d'entre eux pour aller discuter à l'intérieur du siège avec le directeur régional et lui confirmer qu'ils estiment ne pas avoir été entendus jusqu'à présent sur la persistance des tensions liées à la gouvernance de leur magasin. Comme on dit habituellement, l'interlocuteur a pris bonne note et en discutera également avec les représentants syndicaux quand il les recevra. Évidemment, l'été est là, les vacances commencent, les promesses risquent de s'envoler et de traîner encore plus. La direction a la tête dure, mais les salariés aussi. Il est donc fort à parier que nous serons amenés à vous reparler de ce conflit qui ira jusqu'à son terme, on l'espère, jusqu'à la victoire, comme on dit en version originale, hasta la victoria siempre.
Oui, parce qu'il y avait eu en effet ce rassemblement dans le 15e arrondissement, pas loin de Grenelle.
Oui, à Birakem.
À Birakem, tout à fait, oui, pas loin là-bas, là, dans cette partie du 15e arrondissement, où nous allons très peu.
Oui, où nous allons très peu. Et là, on avait choisi le jour longtemps à l'avance. On savait pas quelle température il ferait ce jour-là.
Il allait faire chaud.
On n'a pas été déçus.
Mais peut-être que la direction de Biocoop a eu chaud elle aussi. Hein.
Oui.
Mais oui, encore beaucoup de choses qui restent à faire dans cette lutte. On vous tiendra au courant de ce feuilleton des luttes.
En tout cas, on continue de se voir plus ou moins régulièrement avec le comité de soutien qui avait été créé juste avant la fin de leur grève, et ça se passe très bien. Alors il y a de tout, hein. Il y a de tout. J'étais juste un représentant de la. Il y avait 2 représentants de l'AFA d'ailleurs à ce rassemblement, au milieu de représentants de LFI, de Des différents et divers NPA anti-militaristes, non. non, pardon.
Ni anti-militariste, ni anti-autoritaire.
Anti-capitaliste, révolutionnaire, révolution permanente, enfin bref. Il y a toute la galaxie de gauche et d'extrême gauche, sauf ça m'a toujours surpris. Il y a bien aussi le Parti communiste, mais il n'y a personne du Parti socialiste. C'est quand même étonnant.
Comment ? La ville de Paris ne soutient pas les luttes des grévistes dans leurs magasins.
Ou alors c'est un soutien moral et de loin, mais bon. Non, je ne les vois jamais.
Ah, de très loin, alors. Hein.
De très loin, de très très loin.
Biocop, les légumes bio, les avancées écologiques, c'est l'heure de ma rubrique sur l'environnement. J'ai toujours pas trouvé de nom marrant sur cette rubrique, mais bon, comme c'est toujours des choses, des idées déprimantes, voilà. Alors, on va aborder deux petits sujets, puisque Gérard, tu parlais de la loi du plomb il y a quelques minutes tout à l'heure. On va reparler de cette loi du plomb et notamment de nos chers betteraviers en France, hein, qui sont fer de lance de la réintroduction de, il faut que je lise mon papier, l'acétamipride, parce que c'est quand même un nom un peu compliqué. Alors, le puceron vert du péché n'a qu'à bien se tenir. Cette semaine, les sénateurs, galvanisés par l'impayable même, Laurent Duplomb, se sont mis en tête, pour sauver nos plantes de betteraves à sucre, auxquelles la bestiole file la jaunisse, de réautoriser l'acétamipride, un charmant néonicotinoïde qui flingue les pollinisateurs et les oiseaux, entre autres. Petit rappel, notre puissante industrie betteravière n'a jamais digéré qu'on lui sucre cette cochonnerie. En 2018, pour tenir la promesse du candidat Macron élu l'année d'avant, la France avait en effet interdit ce tueur d'abeilles et quatre autres néonicotinoïdes. Mais à force de lobbying, les planteurs de betteraves avaient en 2021 et l'année suivante décroché auprès du ministère de l'Agriculture des dérogations pour pulvériser de nouveau des néonicotinoïdes décrétés non grata à l'époque. Mais patatras ! En janvier 2023, la Cour de justice de l'Union européenne mettait fin à cette complaisance. Mais qu'à cela ne tienne, 2 ans plus tard, les betteraviers réussissaient, à travers la loi du plomb, à réintroduire l'acétamipride dans le pulvérisateur, et ce malgré une pétition citoyenne ayant cumulé quand même plus de 2 millions de signatures. Nouveau râteau pour nos sucriers, le Conseil constitutionnel censurait illico ladite loi, enfin une partie en tout cas. Mais notre sénateur, toujours là pour batailler au Sénat auprès des endormis, retente le coup avec la loi du plomb 2, le retour. Mais qui finit un peu dans les choux, parce que le 11 juin, le héros E accent aigu RAUT, des betteraviers a déposé dans la loi d'urgence agricole un amendement permettant aux producteurs de betteraves à sucre, mais aussi de noisettes et de cerises, d'utiliser de l'acétamipride durant une année. Les abeilles et les pucerons seront fixés sur leur sort au plus tard le 3 juillet, sauf que j'ai pas trouvé l'info depuis. D'ici là, tous les moyens sont bons pour convaincre parlementaires et citoyens que le salut de la betterave tricolore passe par l'acétamipride. La Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, oui, elle existe, a carrément créé le site internet labetteraveendanger.fr. Allez-y, ça vaut son pesant de betterave. Hein. L'association Génération Future s'est amusée à compter les salades de betteraves racontées sur ce site. Parmi les plus belles, je cite, « l'acétamipride ne présente pas de danger pour la santé humaine, ni pour les animaux, ni pour l'environnement. » Fin de citation. Peu importe si l'Autorité européenne de sécurité des aliments reconnaît, je cite, « des incertitudes majeures » concernant l'impact de l'acétamipride sur le développement du cerveau, ou encore si un beaucoup de toubibs et de chercheurs et chercheuses s'inquiètent de possibles effets neurotoxiques chez les jeunes enfants. C'est ce qui s'appelle sucrer la vérité.
Ah ah. Ouais.
Ils vont nous amuser longtemps avec leur...
Ah ben ils sont spécialistes leur... quand même, hein, sous et... Macron, hein, ouais, ça. Ouais. Hein.
Et je propose, et je te repropose la même loi, mais avec habillé légèrement différemment.
Mais ça avait déjà commencé sous François Hollande quelque part, parce que on a tendance à oublier la loi Macron. Entre juin et septembre 2015, quand même, au moment des pauses des luttes sociales, hein, malheureusement, mais la loi Macron qui était passée, hein, entre juin et septembre, et la loi Macron numéro 2, qui ne s'est pas appelée comme ça, puisqu'elle s'est appelée la loi El Khomri, puisque oui, Macron s'était retiré tout de suite en ayant balancé le projet de loi de cette loi Macron numéro 2, en se retirant du gouvernement pour préparer son élection municipale, qui sera victorieuse pour lui. Et s'était retiré du projet, mais c'était déjà la loi Macron numéro 2, la loi El Khomri. On oublie un peu, mais c'est bien de le rappeler. Est-ce que je continue avec quelques infos déprimantes encore dans ma rubrique environnement ?
Vas-y, continue. Allez. Continue avec.
Continue de plomber infos. L'ambiance.
Voilà. Allez. On va parler de l'écologie de droite cette fois-ci. Et ça doit être la millième fois qu'on lit pareil titre dans la presse ou dans les médias. Le réchauffement climatique, un sujet trop sérieux pour le laisser entre les mains des Verts. C'est celui d'un article du Figaro, datant du 26 juin dernier, publié en pleine canicule, évidemment, toujours le sens du tempo et du timing. Signé de la chroniqueuse Laurence de Charette, toute une tirade sur l'inaction de la ministre Monique Barbu. Celle-ci n'a jamais été encartée chez les Verts, pourtant. Mais quelle importance, du moment qu'on peut la cataloguer d'écolo. La canicule aurait démasqué l'irrationalité des diktats écolos. Ah bon ? Leur despotisme moral, ah bon ? Certes, Marine Tondelier proposant des congés payés pour les canicules à venir, bon, il y a de quoi débattre là-dessus. Mais rappelons que les Verts ont plus que rarement été aux manettes ministérielles. Le dernier à avoir été ministre de la Vertitude, c'était Yves Cochet en 2001 et il l'est resté moins d'un an. Et en 2012, Hollande, finot, avait nommé la verte Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement, pas à l'écologie. Et rappelons que depuis la création du ministère de l'Environnement en 1971, on a vu s'y succéder comme ministre ou secrétaire d'État, entre autres, Michel Dornano, Alain Carignon, Alain Juppé, François Pillon, Elisabeth Borne, Sébastien Lecornu, entre autres. Mais oui, et ils n'y ont guère fait d'étincelles. Hein, voilà. Voynet, Hulot et Lepage, mis à part, citez le premier nom qui vous vient à l'esprit d'un ministre ou ex-ministre, ou député, ou sénateur, ou même d'un parti qui se soit illustré en matière d'écologie. Ségolène Royal ? Vraiment ? Attention quand même. François de Rugy et ses homards ? Mélenchon et sa planification écologique ? Marine Le Pen, la va-t-en-guerre actuelle de la clim ? Lors de la canicule de l'été dernier, le 30 juin 2025, la première, elle avait déjà affirmé qu'il était grand temps que la France déploie un grand plan d'équipement pour la climatisation. Fin de citation. Résultat, le RN a attendu ce 28 juin 2026 pour en présenter en catastrophe les grandes lignes. On va tout climatiser et lancer un prêt vert à 20 € par mois pour les gens pour que chacun puisse acquérir sa clim perso. Ça travaille dur du chapeau, RN, hein. Attention. Hein. Depuis un demi-siècle, quand même, rappelons-le, les politiciens et politiciennes de tous bords ont pris position pour le nucléaire. Les autoroutes, les lignes de TGV, les barrages, les méga-bassines, les chasseurs, les data centers, etc. Je vais m'arrêter là. Mais contre les éoliennes aussi, par moment, contre les énergies renouvelables, contre la taxe carbone, etc. aussi. Les politiciens préférés du Figaro ont promis de supprimer les ZFE, les zones à faibles émissions, qui ont aussi leur part de critique. D'avoir la peau des ZAN, les ZAN, le zéro artificialisation nette dans les plans locaux d'urbanisme. De réautoriser l'acétamipride, comme on vient de le voir juste avant. De casser les rares outils existants comme l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, par exemple.
Mais en réalité, la vieille rengaine contre les escrologistes n'a qu'un but. Mettre dans le même sac que les Verts les innombrables chercheurs et penseurs en écologie. Elle est d'abord une science et une vision. Et les innombrables ONG, collectifs et médias engagés dans une lutte inlassable et déterminée. Mais pour le Figaro, le seul vrai écolo, c'est Retailleau et son écologie de droite. Aussi vite qu'un bénitier partant de canicule, cependant.
Ouais, c'est... Comme tu dis, c'est déprimant.
Oui. Ramène un commentaire.
Ça m'amuse toujours de voir ces gens s'agiter au dernier moment, notamment chez ceux qui ont eu, dans les années passées, pas si lointaines, mais qui ont été à différentes occasions au pouvoir d'une manière ou d'une autre, et qui viennent là en train de s'étonner sur le thème. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Mais c'est eux qui n'ont rien fait. C'est eux qui ont refusé de voir la réalité en face. Alors en ce moment, on voit sur les réseaux, certains repassent les vidéos de René Dumont lors de sa campagne électorale de je ne sais plus quelle année. Il y a longtemps, j'étais très jeune.
74.
Et où il buvait un verre d'eau en disant « J'en profite parce que demain, l'eau sera rare. » Tout le monde s'est foutu, enfin, pratiquement tout le monde s'est foutu de sa gueule à l'époque. Bien, maintenant, les mêmes continuent de dire « Mais non, mais je le savais, je l'ai dit. Bon, » on sait pas où ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas dit très fort. Et maintenant, ils arrivent avec leur solution, évidemment, comme le RN qui va climatiser à tout va. Je ne sais pas comment ils vont financer... Ils vont financer la climatisation de la France entière, mais ils sont là, il suffit de voter pour eux et on aura la clim.
Par le nucléaire qui rencontre beaucoup de problèmes pour refroidir ses réacteurs en temps de canicule, justement. Mais bon,
ça se mord la queue. Hein,
l'été dernier, on rappellera qu'il y a eu un tiers des réacteurs qui étaient actifs. Il y en avait déjà beaucoup moins actifs, mais sur ce qui était actif, pas la totalité, donc il y en a eu un certain nombre à l'arrêt parce qu'ils n'étaient pas refroidissables à cause notamment de la Loire qui était presque complètement à sec, par exemple. Voilà, et d'autres raisons encore. Bah, pour compenser quand même ma rubrique environnement, mais on présentera ça plus en détail lundi prochain, sachez qu'il y a les Reclusiennes à Sainte-Foy-la-Grande, 15 et 18 juillet 2026, pour penser justement les luttes environnementales, inscrire ça dans l'histoire, notamment avec la pensée d'Élisée Reclus. Toujours très actuelle, la pensée d'Élisée Reclus. Voilà, et pour parler de tout un tas de sujets qu'on vous présentera lundi prochain. Voilà. Je préférais le dire pour faire le pendant de des oui. infos un peu déprimantes oui. de ma rubrique environnement.
Je vais rajouter
pardon,
un petit truc.
Je t'en prie.
Je crois qu'effectivement, il y a une part de responsabilité de l'État, mais il y a aussi une part de responsabilité des individus qu'il ne faut pas non plus gommer. Je prends l'exemple, par exemple, des betteraviers. Les betteraviers, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas la majorité. La majorité de leurs betteraves ne servent pas à produire du sucre, comme on pourrait le penser, mais servent à produire de l'essence.
Puisque oui, il y a les biocarburants, tout à fait. Il y a ça aussi.
Ça sert à produire de l'E85, au même titre d'ailleurs que le maïs, qui est aussi un gros danger environnemental, est utilisé pour produire de l'essence. Et que les utilisateurs de l'essence, c'est bien par le biais de défiscalisation, c'est bien les particuliers. Je crois qu'à un moment donné, il y a un ensemble global dans lequel on est enfermé. Et il y a ce que vivent les gens.
Ouais.
Il y a ce que vivent les gens qui les conduit à jouer contre leur intérêt collectif au nom de leurs bénéfices individuels. Et je crois qu'à un moment donné, il faudrait peut-être aussi en prendre en compte et peut-être aller. C'est exactement le même truc que la clim. La clim, c'est une aberration, mais quand tu vis dans une bouilloire thermique, la clim, c'est la seule solution.
Mais oui, tu te retrouves contraint par le système à utiliser des solutions qui, à terme, ne sont pas bonnes
collectivement.
Oui, collectivement. Mais c'est tous les paradoxes du système dans lequel on est.
Tu vois, et donc pour rechaîner avec les réunions, enfin avec l'annonce qu'il y avait sur le logement, sur la loi, je me rappelle plus comment il s'appelle.
Jean Brun.
Mais c'est vrai que si tu ne t'intéresses pas à l'amélioration de l'habitat, véritablement, à rendre les habitats vivables, pour les maisons vivables, les habitations vivables pour les gens, ben automatiquement tu continueras à être dans un système qui va accentuer tous les problèmes que tu as.
Tout à fait.
Et c'est toute la difficulté de l'approche écologiste, qui ne peut être qu'une approche globale, ça ne peut pas être une approche individuelle, contrairement à ce qu'on te raconte.
Tous les reclusionnaires.
Tu vois ?
Tous les reclusionnaires. Mais évidemment, c'est un point de vue global. C'est un point de vue global à prendre en compte. Hein. On aura l'occasion d'aborder ce sujet plus en détail.
Et à un moment donné, peut-être véritablement taper sur les syndicats d'agriculteurs, enfin les syndicats d'agriculteurs. La FNSEA et tout ça, qui est quand même un partisan du statu quo pour continuer à faire de l'agrobusiness et uniquement de l'agrobusiness, et qui refuse de se mettre en cause, parce que tu as sur l'aspect de la gestion de l'eau, tu vois, c'est aujourd'hui ils en sont à réclamer la mise en place de méga bassines de retenue d'eau parce qu'il y a la sécheresse, sans intégrer le fait que en faisant ça, ils refusent de remettre en cause leur propre production. Ils se disent pas on va produire autre chose qui consomme moins d'eau.
Autrement, etc.
On va produire autrement.
Bien sûr.
Voilà, bon, donc là, on y reviendra.
Non, mais on y reviendra tout à fait. C'est un sujet qui mérite d'être approfondi de toute façon sur un temps un peu plus long. On va conclure très vite, du coup, l'émission avec les deux derniers rendez-vous qui auront lieu à la librairie Publico pour cette fin de semaine, notamment vendredi 10 juillet à 19h. Publico accueille pour la sortie de son numéro 4, la revue Dissidente, la revue antiraciste et féministe qui paraît depuis maintenant à peu près un an. C'est déjà son quatrième numéro. La librairie accueillera du coup l'équipe de la revue Dissidente vendredi 10 juillet à 19h pour présenter le numéro 4, mais aussi pour présenter la revue de façon globale. Et il y aura aussi un rendez-vous dimanche, Ramon.
Oui. Là, ça sera, pour se détendre un peu, une projection débat organisée par le groupe Louise Michel, qui vous propose un classique du cinéma américain, La nuit du chasseur, de Charles Laughton avec Robert Mitchum. Un classique, donc, à voir et à revoir. Dimanche 12 juillet à 16h, toujours à la librairie Publico. On vous rappelle que toutes ces animations à la librairie Publico sont libres et gratuites.
Et ça va être le moment de vous laisser. Ah voilà, bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine.
En espérant qu'on n'aura pas fondu.
On sera bien là lundi prochain à 13h. On se quitte avec un dernier titre de blues pour une pensée à notre compagnon Thierry. Ce sera un titre de Chris Thomas King et intitulé Why Blues. Why would still pie be
Mukasa rembogaa